Bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, je m'appelle David Rosset, puis j'ai la chance d'être le pasteur de cette communauté. Et puis, on va entamer une nouvelle série de prédications dans un autre contexte, dans une autre partie de la Bible, l'Ancien Testament. Et pour ces prochaines semaines, on va se mettre à l'écoute des prophètes. Alors, je ne sais pas ce que ça vous évoque, Marie vous a déjà donné un avant-goût, mais j'ai intitulé cette première prédication « Une parole explosive », parce que vous verrez, ça explose. Et on n'aime pas forcément ça, les Suisses, parce que les Suisses, nous, notre but dans la vie, plus ou moins avoué, hein, on ne se le dit jamais trop, c'est des choses plutôt assez linéaires, comme ça, qu'on peut maîtriser, un peu comme les diagrammes de maths que j'ai appris il y a longtemps à l'école, que je serais incapable de refaire. Mais par exemple, si on a une action 1, ça doit produire le résultat 1, ça donne le premier point rouge, puis ensuite, il y a une espèce de progression. Alors, on peut l'illustrer comme ça. D'abord, on a une éducation, si possible, une bonne éducation. Ensuite, on a la chance de pouvoir faire une formation, et si possible, une bonne formation. Ensuite, normalement, on devrait trouver un travail, puis si possible, un bon travail. Vous voyez, la lignée des points rouges, là, ça continue, ça évoque un peu ce qu'on vit. Ensuite, si tout va bien, on peut avoir une famille et une belle famille. Là, il y a double sens, hein, vous comprenez bien. C'est pas toujours si évident que ça, mais bon, normalement, c'est quand même plutôt beau. Ensuite, normalement, on arrive à la retraite. Puis là, on aimerait bien jouir d'une bonne retraite aussi parce qu'on a bien cotisé. Alors ça, c'est surtout pour vous, pour moi, ça fait un peu plus de soucis d'ailleurs. C'est pour ça qu'on a des cheveux blancs plus vite. Et puis ensuite, ben voilà, la mort, la linéarité, puis si possible une belle mort, s'endormir dans son sommeil par exemple, c'est le mieux. C'est ce qu'on aimerait avoir. Alors voilà, ça c'est un peu la vie rêvée des Suisses et des autres, c'est-à-dire quelque chose de bien linéaire et puis de bien ordonner où on maîtrise la situation. Puis ce n'est pas une mauvaise chose, parce qu'on a besoin de cette sécurité, on a besoin d'aller dans ces directions-là, puis on a besoin de ça tout simplement pour vivre. Le seul hic, c'est que quand on se met à l'écoute des prophètes, puis c'est ce que je nous propose de vivre pour ces prochaines semaines, ce n'est pas exactement le même schéma. Alors je vous donne simplement quelques illustrations, je ne sais pas si vous avez vu dans le Frat News, mais je nous invite à méditer pour ces prochaines semaines, les 24 premiers chapitres du prophète Ézéchiel. Alors, quand on lit le prophète Ézéchiel, je ne vais rien vous cacher, on peut tomber sur ce genre de texte. « Ainsi parle le Seigneur Dieu. Malheur jamais vu. Malheur. Le voici qui vient. La fin arrive. Elle arrive, la fin. Et elle s'éveille, pas pour l'autre, mais pour toi. » La voici qui arrive. Le terme arrive sur toi, habitant du pays. Le temps arrive, le jour est proche. Panique au lieu de joie sur les montagnes. Ben, c'est pas tellement linéaire. Hein. Voici le jour, voici venir le terme. Il est en route. La brutalité prospère, l'insolence s'épanouit. La violence s'est dressée, bâton de la méchanceté. Il ne reste rien d'eux. Rien de leur clameur. Rien de leur grondement. Plus de répit pour eux. Le temps vient, le jour est imminent, que l'acheteur ne se réjouisse pas, que le vendeur ne s'afflige pas, car la fureur menace toute la richesse du pays. On croit un peu plus loin, leur argent et leur or ne pourront les sauver au jour de la fureur du Seigneur. Leurs gosiers ne seront pas rassasiés, leurs entrailles ne seront pas remplies, car l'or et l'argent sont la cause de leur péché. Moi, quand j'entends ce genre de texte, ça me fait penser un peu à ça. C'est explosif, ça va dans tous les sens, puis on se demande quoi faire avec. Et pourtant, c'est dans la parole, c'est dans cette parole que nous méditons. Et puis, je dois bien qu'avouer qu'en méditant, je suis limité à ces 24 premiers chapitres, et à un moment, on se demande presque dans Ézéchiel, quand est-ce que ça va s'arrêter? Parce que ça n'arrête pas, c'est une parole de jugement sur une autre, puis je devenais de plus en plus petit, presque un peu abasourdi. Et puis on se dit que Ézéchiel, il ressemble vraiment à ce hibou. N'est pas mal, n'est pas de moi. Que fait un hibou fâché? Ben, il boude, évidemment. On a l'impression que Ézéchiel, il boude assez souvent. Il boude assez souvent, puis en plus, il ne reste pas tout seul dans son coin. En plus, il le dit à tout le monde qu'il n'est pas content. Et non seulement il le dit à tout le monde, mais il dit que ce n'est pas seulement lui qui le croit, mais c'est Dieu qui l'annonce à tout le monde pour son peuple. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça, nous qui voulons être à l'écoute des prophètes? Si on reprend ces paroles de jugement du chapitre 7, là, que vous pourrez méditer aussi chez vous, on se rend compte que le contexte dans lequel cette parole est énoncée, parce que la première caractéristique d'une parole prophétique, c'est qu'elle est annoncée à un moment donné de l'histoire. L'histoire, en l'occurrence, du peuple d'Israël. Et puis, cette histoire, au moment où Ézéchiel annonce ces paroles, on peut s'imaginer en creux que pour le peuple et puis pour ses élites, c'est-à-dire ceux qui gouvernent le peuple d'Israël, le roi, les conseillers, toutes ces personnes-là, on pourrait supposer que pour eux, tout va bien. Il n'y a pas de problème, tout roule, il y a une certaine forme d'opulence, il y a une certaine forme de confort. Et puis, quelques mois ou quelques années plus tard, des armées ennemies vont venir sur Juda, sur Jérusalem, et vont tout simplement anéantir le pays. Donc là, on est quelques années avant une catastrophe que pour un pays, on ne peut pas imaginer plus importante que ça. Parce que quand son pays est anéanti, on peut difficilement aller plus loin dans le fond du problème. Et pourtant, les élites, le roi, les princes, tous les conseillers, ils sont plutôt en train de se dire « tout va bien, on peut y aller tranquille, on a encore nos maisons, on a nos richesses, le commerce fonctionne, il n'y a pas de problème ». Et c'est dans ce contexte-là qu'Ézéchiel prononce ses paroles de jugement. Et c'est très intéressant, il y a tout un chapitre aussi, le chapitre 13 d'Ézéchiel, qui parle des faux prophètes. Et qu'est-ce que disent les faux prophètes? Ils disent exactement ce que les puissants ont envie d'entendre, c'est-à-dire, mais ne vous faites pas trop de soucis, les gens comme Ézéchiel, c'est juste des hiboux fâchés, ils n'ont pas exactement compris ce qu'il en est. Moi, je vous dis, tout va bien, la paix sera sur Israël. Et puis, c'est des prophètes, finalement, de bonnes nouvelles, qui s'avéreront fausse. Alors, c'est effectivement pas très agréable d'avoir, dans ce contexte-là, une parole qui tranche, une parole qui fait mal, une parole qui fait peur, qui repousse, voire même qui répugne. Et pourtant, c'est une parole vraie, et c'est une parole que Ézéchiel devait annoncer pour annoncer ce qui allait suivre pour le peuple d'Israël. Pourtant, Ézéchiel avait raison. Et la vérité, elle fait parfois un peu mal. En creux, tout va bien. Et quand on est dans cette période-là de nos vies, dans nos contextes-là, on a peut-être un peu plus de peine à recevoir une parole qui nous déplace, qui nous dérange, qui fait qu'on a un peu comme un caillou dans la chaussure. Et puis quand on écoute les prophètes, c'est un peu la première image qui m'est venue à l'esprit, c'est de se dire, le prophète, c'est pas uniquement le hiboud, c'est surtout un peu ce caillou dans la chaussure. Nous, on aime bien que tout aille bien et puis que dans la bonne direction. Puis le prophète, il est un peu là pour jouer les empêcheurs de tourner en rond, pour se dire, ah, on n'est jamais complètement à l'aise, on a toujours un peu quelque chose qui nous dérange dans notre marche et qui nous remet en question. Et peut-être encore plus profondément, je vous laisse regarder parce que c'est aussi rigolo, le cycliste là que... Si vous lisez ceci, c'est que vous êtes dans l'angle mort. Et je crois plus profondément encore que le caillou de la chaussure qui illustre ce côté dérangeant de la parole du prophète, le prophète, il a cette capacité unique de pointer les angles morts d'une vie en société, en communauté, et puis de ma vie personnelle aussi. On sait plus ou moins ce que c'est les angles morts, c'est quand on va dans une direction, et puis qu'on ignore ce qu'il y a sur les côtés parce qu'on n'a tout simplement pas la capacité de voir tout ce qui se passe à 360 degrés. On n'a pas des yeux qui nous permettent de faire le tour à 360 degrés. C'est la même chose quand on est en groupe, je dirais même que ça se rétrécit encore parce que quand on est en groupe, c'est encore plus difficile d'avoir tout cela. Mais le prophète, c'est précisément celui qui nous permet de voir là où nos yeux ne peuvent pas forcément voir. C'est celui qui nous permet d'examiner nos angles morts autant au niveau de notre vie personnelle que de notre vie communautaire. Et dans ce message-là, il y a vraiment quelque chose d'extraordinaire. C'est extraordinaire, et je pèse mes mots, que la Bible, parole de Dieu, contienne le message des prophètes. Parce qu'imaginez, si vous, vous étiez l'auteur de la Bible, et puis que vous deviez raconter l'histoire sainte du peuple de Dieu, ou l'histoire du salut. On aurait plutôt tendance à dresser un portrait flatteur, les grands actes qui sont commis par ce peuple, les bonnes actions qui sont commises par ce peuple, éventuellement qu'on prendrait quand même peut-être quelques petits défauts, mais c'est un peu comme dans les CV ou bien dans les entretiens d'embauche, nos défauts en fait c'est des qualités cachées, puis c'est ça qu'on nous apprend à faire. On montre les aspérités, mais pour montrer en fait que c'est dans le fond des qualités, puis le recruteur doit le comprendre. Donc on montrerait ces aspects-là quand même pour montrer qu'on n'est pas parfait puis lisse. Mais est-ce qu'on aurait pensé à inclure une parole si incisive que ça dans l'histoire sainte d'un peuple? Ce peuple, c'est le peuple de Dieu. Et il contient des pages et des pages d'écrits prophétiques qui pointent précisément sur les failles de ce peuple. Et ça, c'est le côté extraordinaire du message biblique. Plutôt que de raconter une histoire linéaire où tout va bien, où ce peuple est parfait, la parole même de Dieu inspirée insère dans son recueil les paroles qui font mal, les paroles incisives, les paroles qui pointent sur les limites. Et si Dieu l'a voulu pour son peuple, je pense qu'il le veut aussi pour son Église. Et puis peut-être que, suivant quelle actualité on regarde, on se dit que ce serait peut-être une bonne chose qu'on s'en souvienne. Ce message prophétique qui pointe sur nos limites, sur nos empêchements, et que ce n'est pas une mauvaise nouvelle, mais que c'est quelque chose que Dieu veut pour notre salut. Si on n'est pas capable de regarder nos angles morts, si on n'est pas capable de les accepter, on n'est pas capable de recevoir le salut dont on se souvient chaque dimanche avec la table de la communion. Simplement, c'est vrai que quand on lit Ézéchiel, ça creuse ces paroles de jugement. Ça creuse parce qu'on se demande comment se fait que Dieu en arrive à ces extrémités-là. Puis ça, je dois bien vous avouer, ma limite à moi, c'est que je n'ai pas encore trouvé la réponse. Ça continue de me déranger. Pourquoi, puis je pense que ça va me déranger jusqu'à la fin de mes jours, pourquoi Dieu en arrive jusqu'à ce point-là? Ce qui me rassure, c'est que je me dis, chaque fois qu'il en arrive et jusqu'au point du Christ, il a envoyé son Fils unique pour calmer cette fureur, puis ensuite qu'elle est descendue de manière radicale, parce qu'il l'a prise sur lui à la croix pour nous. Mais pourquoi la Bible continue de contenir des paroles aussi fortes? Ça, je reste des fois un peu bouche bée, et puis des fois un peu interloqué aussi, de se dire comment est-ce qu'on arrive à aller à ce point-là? Ça reste des vraies questions pour moi. Alors, voilà, comme ça, vous avez déjà la réponse pour tous ceux qui seront venus me poser la question. À la fin du culte, pourquoi il y a ça dans la Bible? Ça reste un grand point d'interrogation. Je le creuse, mais j'ai de la peine à trouver une réponse. Donc, on en est là. D'un côté, ces paroles de jugement qui pointent sur les angles morts de nos vies et surtout de la vie du peuple d'Israël. Et ce côté extraordinaire de pointer ces angles morts, parce que naturellement, dans l'histoire d'un peuple qui se veut une histoire sainte, on n'aurait jamais pensé à mettre en évidence tous ces défauts-là. On cherche plutôt à les cacher, à les mettre de côté. Puis surtout quand on est communicant, on est vraiment très stratège pour ne pas montrer ces aspects-là. La Bible fait exactement le contraire. Elle conserve un énorme éventail de ses paroles de jugement. Et puis, un tout petit peu de paroles d'espérance. « Je leur donnerai un cœur loyal. Je mettrai en vous un esprit neuf. Je leur enlèverai du corps leur cœur de pierre et je leur donnerai un cœur de chair afin qu'ils marchent selon mes lois, qu'ils gardent mes coutumes et qu'ils les accomplissent. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. » Alors quand on tape sur Google Ézéchiel, c'est systématiquement sur ce verset-là qu'on tombe, hein, je vous rassure. On tombe jamais sur ceux que je vous ai cités au début de la prédication. C'est intéressant parce qu'on est quand même dans une phase actuellement de la vie d'église en général, où on met un fort accent sur ce type de verset-là. Et de nouveau, je ne pense pas que c'est une mauvaise chose. Mais quand on lit le texte en entier, on se rend compte qu'en fait, là, j'ai réussi à en extirper deux, puis il y en a beaucoup plus de l'autre côté. Mais c'est un peu l'image qui m'est venue, là, d'une citation de quelqu'un que j'ai découvert parce qu'il a écrit un livre qui s'appelle Le Prophète, qui s'appelle Khalil Gibran. Et puis, il parle de la tristesse et de la joie. Et puis, il met ces deux éléments de tristesse et de joie l'un avec l'autre. Et puis, il dit « Plus profondément le chagrin creusera votre être, plus vous pourrez contenir de joie. » Puis, je crois que quand ces paroles qui font du bien, ces paroles de Ézéchiel 11 et ces paroles de jugement, c'est exactement la même image qu'on peut employer. Ces paroles de jugement qui nous retournent, qui nous remuent, qui vont creuser au fond de nous sur des éléments qu'on n'a pas forcément envie d'écouter, creusent l'espace pour accueillir ces paroles-là qui nous font du bien, comme du baume sur le cœur, des paroles qui nous font du bien parce qu'elles ouvrent. Elles ouvrent une nouvelle perspective, elles ouvrent un changement possible. Et ça, ça fait toute la différence. Mais ce changement, puis on en a pas mal discuté ces dernières semaines avec toute notre série sur la transformation, ce changement, s'il n'est pas creusé par une remise en question, par une prise en compte de nos limites, il ne va juste pas intervenir. On n'aura pas creusé l'espace pour que quelque chose d'autre puisse intervenir. Et je crois que si nous voulons pouvoir vraiment profiter et jouir de ce baume que ces paroles-là mettent sur notre cœur, presque la condition sine qua non, c'est de se laisser creuser par les éléments moins réjouissants qui nous sont adressés par le même Dieu. Je leur donnerai un cœur loyal, je mettrai en vous un esprit neuf, je leur enlèverai du corps leur cœur de pierre et je leur donnerai un cœur de chair, afin qu'ils marchent selon mes lois, qu'ils gardent mes coutumes, qu'ils les accomplissent. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Elles prennent un écho complètement différent lorsqu'on s'est laissé creuser par ces paroles qui nous font moins plaisir. C'est pour ça qu'on peut mettre ensemble paroles de jugement et paroles d'espérance comme étant les deux faces d'une même pièce. C'est pour ça qu'on peut mettre ensemble la réalité du péché et particulièrement avec la venue de Jésus, la certitude de la grâce. Si on peut entendre une parole négative sur ma vie ou sur notre vie communautaire, c'est parce qu'on a la certitude de la grâce. Mais la certitude de la grâce ne zappe pas cette réalité de nos limites et de nos péchés. Et puis c'est pour ça que notre fête numéro un en tant que chrétien, qui n'est pas Noël mais la fête de Pâques, que nous venons de vivre, contient ces deux moments très forts qui sont Vendredi Saint, cette réalité du péché, et Pâques, la vie qui vient et cette certitude de la grâce qui balaye tout sur son chemin. Mais les chrétiens n'ont pas décidé de zapper Vendredi Saint. À aucun moment ils ont voulu le faire. Et c'est significatif, c'est exactement dans la même ligne que cette parole des prophètes qui pointe, qui nous creuse sur ce que nous avons à travailler, et qui provoque en nous ce changement qui permet que la vie puisse rentrer dans ces creux que nous avons pu vivre, peut-être pas forcément toujours de manière facile, mais que nous avons pu vivre. Alors, la vie avec les prophètes, moi je trouve que ça ressemble plutôt à ça, c'est un peu première route, mais c'est plus un tourbillon qu'une vie linéaire. Puis je crois que la vie de foi, puis je crois dans le fond la vie tout court aussi, c'est plus un tourbillon des choses qui peuvent nous arriver, qu'on essaye de gérer au mieux, qu'une vie linéaire où rien ne se passe. Ça remue, ça travaille, ça va parfois dans tous les sens, mais c'est aussi synonyme de vie et de vie profonde, d'une vie qui se vit pleinement dans toutes ses dimensions. Et j'aime bien cette dernière image, puis je vais terminer là-dessus, de se dire que ces cailloux dans la chaussure, vous avez vu, ils se transforment en diamants. Puis je crois que c'est ça parce que, pour moi, une communauté qui peut prendre en compte, ou un individu qui peut prendre en compte ses cailloux dans la chaussure, s'il les secoue en étant sûr de la grâce du Christ, ça se transforme en diamant parce que, précisément, un changement peut se passer au moment où on prend conscience de cela. Une communauté qui se répand qui se repent, pardon, est une communauté paradoxalement en bonne santé. Un individu qui se repent est paradoxalement un individu en bonne santé. Une communauté qui sait et qui peut écouter une parole de jugement de la part de Dieu est une communauté en bonne santé, parce que c'est une communauté qui regarde en avant et qui place sa confiance au bon endroit. La voix du jugement, c'est une voix qui doit crier, parce que le cœur humain est parfois sourd. Seuls les humbles entendent la parole qui dénonce leur péché. Les orgueilleux n'entendent pas ce genre de parole car ils ont une trop bonne opinion d'eux-mêmes. Ils sont trop indulgents, trop complaisants avec eux-mêmes. Jean, lorsqu'il annonce la venue du Christ, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit crier. Et le premier mot qu'il crie, vous savez ce que c'est? Repentez-vous, exactement. Jésus, quand il arrive, première parole de son ministère public, dans l'évangile de Matthieu, c'est quoi la première parole? Repentez-vous. Cette vérité, cette parole qui peut faire mal, qui tranche, annonce précisément la venue du royaume, annonce la venue du Christ, respectivement. Ça peut peut-être expliquer une forme de violence, c'est que le fait est que Jean déjà, Jésus ensuite, les prophètes à leur époque, ils ont plutôt dû crier dans le désert. Ézéchiel, dès le départ, on va le voir dimanche prochain, Dieu l'avertit que son message ne sera pas forcément entendu. Jean crie dans le désert. Jésus, sur la croix, il n'est plus accompagné par grand monde. Toujours est-il que cette parole-là permet le salut, car elle ouvre à quelque chose d'autre, car nous sommes sûrs de la grâce. Et c'est assez naturellement, je trouve, qu'avec cette parole du prophète, cette parole des prophètes, cette parole qui nous vient aussi de Pâques, avec Vendredi Saint et Pâques, on peut s'approcher de la table du Seigneur, parce qu'on peut y aller devant cette table et devant Dieu en toute confiance. En toute confiance que cette parole de jugement n'est pas le dernier mot, parce que nous avons cette certitude de la grâce. Et je ne me serais jamais permis de prononcer une telle parole de prédication si je n'étais pas sûr de la grâce qui était supérieure à tout le reste. Sinon, je serais juste un espèce d'insolent ou d'orgueilleux qui vous dirait quoi faire, puis qui ne m'inclurait même pas. Mais moi, je m'inclus exactement à la même place parce que je vais prendre place à la même table que nous tous et de se dire, on a accès à cette grâce qui fait toute la différence. Et cette grâce nous permettra de vivre cette transformation, que ces cailloux dans notre chaussure, ces limites qu'on connaît très bien parce qu'on se connaît bien, sont finalement pas des cailloux dans la chaussure, mais qu'elles peuvent se transformer en des perles précieuses. Amen.